À quoi tu penses?
Tout ça.
Des sons de fréquence supérieure à ceux du spectre audible.
C'est monstrueux.
Les étoiles en plus.
Ah ouais.
Séquence midi, l'info locale à la sauce Pulsar, midi 30-13h sur le 95.9.
Bonjour, bienvenue dans votre magazine quotidien. Au menu aujourd'hui, un anniversaire, une naissance, un brin de nostalgie musicale, et oui, une fois n'est pas coutume, et puis de quoi s'occuper et se cultiver à Poitiers et ses environs, le tout bien sûr en lien avec l'actualité locale. Et nos premiers invités, c'est Alexandra Bénard, chargée de communication, et Pierre Lecomte, directeur d'idées, initiatives, développement. Bonjour.
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 Merci à tous les deux d'être là pour les 30 ans de cette ONG basée à Poitiers et qui rayonne dans le monde entier. Peut-être on peut revenir sur qui est ID, Initiative Développement, qui est née donc en 1994.
Oui, merci de nous inviter. Alors ID a 30 ans cette année, effectivement créée en 1994 ici à Poitiers par des Poitevins, engagé sur les questions de solidarité internationale et qui aujourd'hui travaille dans une dizaine de pays à travers le monde. Alors, ce n'est pas le monde entier, c'est ces 10 pays-là.
Oui, travers, mais ils sont à travers le monde entier.
Effectivement. autour d'une trentaine de projets qui sont mis en œuvre par 150 collègues. L'idée aujourd'hui, c'est 150 salariés à travers le monde, 20 ici à Poitiers et puis le reste de nos équipes dans nos différents pays d'intervention que je pourrais vous détailler aussi à la suite.
Alors, c'est principalement effectivement en Afrique hein, que vous intervenez et puis en Haïti, on y reviendra. Quel était l'objectif, puisqu'il existe des tas d'ONG, comment on peut définir un peu Initiative Développement, comment elle se démarque des autres, vers quel type de projet elle s'oriente?
Oui, alors à l'origine, ID recherchait de travailler sur la question des besoins essentiels aux communautés, aux populations, notamment sur des sujets de santé, des sujets d'éducation, des sujets d'accès à l'eau. Nous continuons à travailler sur ces sujets, mais ce qui fait aujourd'hui vraiment la spécificité de notre association, c'est de vouloir mettre les gens au cœur des projets, au cœur de la définition de ces projets et de leur mise en œuvre. Renforcer le pouvoir d'agir, renforcer les capacités des communautés, des populations et puis des associations qui sont constituées sur les territoires dans lesquels nous travaillons, les collectivités territoriales avec lesquelles nous travaillons aussi. Tout ça pour rechercher la pérennité de ce que nous portons et à terme pouvoir aussi se dire que nous n'avons plus d'utilité en tant qu'ONG. C'est quelque chose de très important et on est convaincu que c'est par le renforcement du pouvoir d'agir des gens, en les mobilisant, que nous trouverons le chemin de cette pérennité.
C'est ça, c'est trouver sur place quels sont les besoins, les identifier avec la population sur place et mettre en œuvre des solutions avec la population pour qu'elle puisse après faire toute seule, quoi.
Tout à fait, tout à fait.
Sachant que les thématiques, ça, c'est assez large, hein, mais j'imagine qu'actuellement, les questions climatiques sont encore plus fortes qu'il y a 30 ans quand ça s'est créé.
Bien sûr, on est nous-mêmes aussi en plein dans ce sujet. Nous avons une thématique de travail climat, énergie, forêt qui nous permet de travailler sur différents sujets, efficacité énergétique, résilience des territoires aux aléas climatiques, notamment dans certains pays où nous travaillons, où ces aléas sont de plus en plus forts et vont continuer à augmenter, puis gestion des ressources naturelles, notamment la gestion forestière. Donc nous intervenons sur ces sujets et ça devient, avec aussi l'actualité, avec la réalité du dérèglement climatique, une actualité aussi pour notre organisation de solidarité internationale. Et la question qui se pose aussi à nous aujourd'hui, c'est quelle part nous prenons, nous aussi, ONG, dans ce travail en faveur de la lutte contre le dérèglement climatique? Comment on réduit notre empreinte carbone, nous aussi, alors que nous sommes un acteur de solidarité internationale et que nous sommes amenés à nous déplacer à l'international, donc à prendre des avions, etc. C'est des questionnements profonds que nous portons dans notre association, qui nous anime et justement, à l'occasion des 30 ans que vous avez évoqués tout à l'heure, nous avons pour objectif d'atterrir une stratégie de transition écologique qui aura pour ambition de réfléchir à comment réduire notre empreinte carbone, nous, ONG et comment favoriser la prise en compte du climat dans l'ensemble de nos actions, que ce soit en matière de santé, en matière d'éducation, en matière d'accès à l'eau.
Et alors, dans ces 30 ans, alors là, on sent qu'il y a une nouvelle transition qui s'opère. Est-ce qu'il y a eu comme ça d'autres moments un peu clés d'évolution de cette ONG?
Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. IDEE s'est construit dans une volonté de répondre à des besoins essentiels. Autour de ces 20 ans, l'association a évolué aussi vers toujours travailler sur ces sujets, mais vers placer les personnes au centre des projets, placer le travail autour du renforcement du pouvoir d'agir, le travail autour du renforcement des associations locales, des collectivités territoriales, au centre de ces projets, quelle que soit la nature ou la thématique du projet. Ça a été une évolution importante aussi de notre association, parce que c'est accepter qu'au départ de l'action, nous ne maîtrisons pas tout, puisque c'est les personnes elles-mêmes qui doivent définir le chemin vers lequel elles veulent avancer. Ceci dit, nous, en tant que structure, financée aussi par des partenaires publics, nous devons conjuguer entre cette réalité locale, les intérêts de nos financeurs, et c'est notre travail du quotidien.
Et est-ce que vous pouvez nous donner des exemples d'un ou deux projets que vous menez actuellement, projets phares d'IDEE dans le monde ?
Oui, bien sûr. On mène actuellement un projet en Haïti. Vous connaissez le contexte actuel du pays, mais qui est pour nous très important de continuer à agir.
Possible aujourd'hui, malgré le contexte, d'agir en Haïti ?
Oui, nous travaillons dans un département enclavé du pays où les conditions de sécurité sont réunies, même si nous avons renforcé, bien sûr, toutes les procédures de sécurité autour de nos équipes. Mais oui, nous continuons à travailler et nous menons notamment un projet sur la santé materno-infantile. Et c'est quelque chose pour nous de très important, justement, de continuer avec les populations à travailler sur ces sujets, malgré les difficultés que rencontre le pays. Continuer à soutenir la communauté, nos collègues, dans leur action en faveur de l'amélioration des conditions de vie des populations du département. Un autre exemple, si vous voulez, aux Comores, nous travaillons sur la filière de distillation de l'ylang-ylang, qui est une fleur peut-être pas forcément très connue, mais qu'il faut savoir est à la base des plus grands parfums à travers le monde. Et nous travaillons sur cette filière depuis plusieurs années, d'abord pour améliorer l'efficacité énergétique de la distillation, et puis aujourd'hui pour travailler à une meilleure répartition de la valeur ajoutée entre des grands groupes parfumeurs que vous pouvez imaginer jusqu'au producteur de l'ylang. Il est nécessaire de réfléchir cette responsabilité de la filière au global. Et c'est ce à quoi nous nous attachons, en tout cas nous contribuons avec nos moyens pour essayer d'améliorer les choses.
Ce n'est pas qu'en France que les producteurs ne sont pas ceux qui touchent le plus.
Non.
Et je me tourne vers Alexandra Bénard pour cet anniversaire, 30 ans. Qu'est-ce que vous avez prévu ? Il y a un temps fort, c'est le 4 juillet, puis apparemment cette réflexion tout au long de l'année.
Oui, tout à fait. Donc le 4 juillet, on donne rendez-vous à toutes les poitevines et les poitevins qui seraient intéressés à la fois pour venir découvrir IDEE, bien sûr. Mais on a choisi aussi de faire cette journée, de l'articuler autour de trois temps qui sont à la fois des temps pour réfléchir, pour découvrir, mais aussi pour se divertir. Parce que la solidarité, c'est tout ça aussi. Et la culture, c'est aussi important de pouvoir la valoriser à cette occasion-là. On travaille en Afrique de l'Ouest et c'est quand même aussi un pays où on a une scène culturelle très, très riche. Donc pour commencer un petit peu et lancer les hostilités, si je puis dire. On évoquait tout à l'heure la transition écologique, les questions climatiques, quel lien entre solidarité internationale et climat. C'est des choses qui, parfois, ont pu être mis en contradiction, alors que non, en fait, ce sont des enjeux, nous, que l'on doit intégrer dans nos projets. Et on invite un petit peu sur une table ronde les participants, le public, à pouvoir se projeter dans les 30 ans à venir. Qu'est-ce qu'une ONG de solidarité internationale doit envisager d'intégrer dans ses projets aussi pour être à la hauteur des enjeux climatiques qui nous traversent toutes et tous, et plus particulièrement les plus fragiles aussi dans ces pays-là, qui sont à la fois les moins émetteurs et pour autant les les plus impactés. Donc ce premier temps-là, il est vraiment un temps de réflexion, d'ouverture aussi sur ces sujets de prospective. On enchaînera ensuite avec le vernissage d'une exposition photo. Alors, expo photo donc, de Pico Paseo, ce que vous connaissez peut-être déjà, qui est un photographe poitevin qui travaille beaucoup et qui investit beaucoup les murs de notre ville, notamment au travers de ses collages, qui a une vision aussi très humaniste, en fait, de la photo, du rapport à la photo et de l'humain. Et il est parti, en fait, pour nous, IDÉE en mission photo au Tchad, puisque IDÉE fête ses 30 ans en France, mais on fête aussi nos 20 ans d'action au Tchad. Donc, c'est un double, voire un triple anniversaire, puisque c'est aussi les 30 ans en Haïti. Et donc, il a travaillé, Pico, en lien avec un photographe tchadien, Gigi Le Black, ce qui est aussi assez symbolique, puisque ça veut dire aussi la ville de Poitiers-Mundu, où nous intervenons, sont jumelées. Et c'est une manière aussi un petit peu d'incarner tout ça, cet échange de pratiques, en fait, et ce travail conjoint. Donc, on aura ce vernissage d'expo suite à la table ronde. Et ensuite, place un peu, on va dire, à un temps plus festif et plus de divertissement. On a le grand plaisir, en fait, d'accueillir un groupe congolais qui s'appelle Fulumiziki, qui est un collectif d'artistes qui se définit lui-même, alors attention, comme eco-friendly afro-futuristic punk. Voilà, qui est un groupe qui porte déjà un message très très fort en termes justement de protection de l'environnement, mais aussi de gestion des déchets. Ce sont des Congolais qui viennent de Kinshasa, pardon. Nous, on travaille au Congo-Brazzaville, donc ça a beaucoup de sens aussi de les faire venir. Et ils portent vraiment une réflexion sur qu'est-ce que c'est aussi que préserver son environnement, comment on réemploie aussi ses déchets, etc., etc., avec cette particularité, donc, à la fois de jouer sur des instruments recyclés faits à partir de ces mêmes déchets et d'inventer aussi leur costume à partir de tout ça. Donc, ça donne à la fois quelque chose qui est musicalement vraiment génial, hyper, hyper enthousiasmant, hyper rythmé, hyper familial aussi, hein, il faut le dire. C'est-à-dire que même les enfants s'éclateront, hein, ils ont déjà joué sur pas mal de scènes et des grosses scènes. Donc c'est 100% garanti aussi pour les enfants. Et voilà, et c'est vraiment ce lien aussi avec... la culture, c'est aussi un vecteur pour faire réfléchir, pour faire aussi agir les gens. Et on a envie de partager ce temps avec les Poitevines et les Poitevins à l'occasion du 4 juillet. Donc, et tous ces événements-là se passeront. Pour le concert, ce sera Square Magenta. Et pour le reste des événements, aux abords de la mairie, entre l'arrière de la cour arrière pour l'exposition et la table ronde à l'arrière, ou peut-être sur le parvis, on est encore en organisation de tout ça.
Donc IDÉE voit les choses en grand pour son 30e anniversaire à Poitiers. Vous l'avez compris, rendez-vous le 4 juillet. Et puis, si les actions de cette ONG vous intéressent, tout est en ligne sur leur site internet. Merci beaucoup à tous les deux, donc Alexandra Vénard, chargée de communication, et Pierre Lecomte, directeur d'IDÉE, d'être passé dans Séquence Midi. Merci beaucoup. On continue en musique avec Babylon Circus. Vous les connaissez peut-être, c'était dans les années 90. Voici le titre Nina de l'album La Belle Étoile. Et ils seront cet été au Festival Note en Vert à Périgny, en Charente maritime au mois de juin.
Je t'attendrai comme avant, sans faire de bruit, sans faire semblant, juste parce que tu es celle qui m'a donné des ailes. On a gravé des souvenirs sur l'écorce de nos 20 ans. Depuis Nina, tu es partie et ça me bouffe la vie. Nina, 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 Nina,
I'm still waiting.
Nina, 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 je sais que tu ne viendras pas.
And I'm still waiting.
Nina, 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 mais je t'attendrai là-bas.
So far away from
me. Nina, 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 je sais que tu ne viendras pas.
And I'm still waiting.
Nina, 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 mais je t'attendrai là-bas. Je garderai sur mes lèvres le goût sucré de tes baisers, la douceur de ton corps, le parfum de ta peau bronzée. J'emporterai avec moi l'étoile de ton regard de braise et tous ces petits mots que tu me criais tout bas. Nina, 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 Nina,
I'm still waiting.
Nina, 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 je sais que tu ne viendras pas.
And I'm still waiting.
Nina, 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 mais je t'attendrai là. Tu ne viendras pas.
And I'm still waiting.
Nina,
way you came my way. The last time just before you go. One day I heard your voice talking to me. Remember all the words you say. There's something that will always be
forever and ever. Je sais que tu ne viendras pas.
I'm still waiting.
Nina, Nina, Nina. Mais je t'attendrai là-bas.
Far away from you.
Nina, Nina, Nina. Je sais que tu ne viendras plus.
I'm still waiting.
Nina, Nina, Nina. Mon si bel amour perdu.
So far away from you.
Nina, Nina, Nina. Je sais que tu ne viendras pas.
De professionnel, je dirais.
Bizarre.
Ça, c'est bizarre.
Les étoiles en plus.
Et on accueille maintenant Aurélie Gaillot et Manuel Vaury. Elle est présidente, il est animateur de l'association Nacranciel. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là tous les deux pour, je le disais, une naissance. La naissance d'un GEM, un groupe d'entraide mutuelle lié aux troubles du spectre autistique. C'est le tout premier dans la Vienne. Et vous êtes là pour nous en parler. Racontez-nous d'abord, peut-être ce que c'est qu'un GEM pour nos auditeurs, auditrices. En quoi ça consiste ?
Aurélie me pointe du doigt pour que je commence à prendre la parole. Donc un GEM, un groupe d'entraide mutuelle, c'est un espace où les personnes concernées par l'autisme, adultes, sans déficience intellectuelle, vont pouvoir se retrouver pour sortir de chez eux, pour s'aider les uns les autres. En fait, c'est vraiment une association qui va être gérée par les personnes autistes pour se créer des activités d'entraide, de sorties culturelles, d'animation, voilà, tout un tas de choses, tout un grand programme pour vraiment s'aider les uns les autres.
C'était un besoin justement de créer un endroit où vous pouvez vous retrouver, partager vos difficultés, sortir tout simplement.
En tout cas, c'était, il me semble effectivement nécessaire que ce soit un endroit qui ne soit pas médico-social. Parce qu'il y a des accompagnements qui existent dans ces domaines-là, mais pas dans le domaine de ce qu'on appelle la paire aidance. Donc vraiment s'aider entre personnes qui ont des difficultés similaires, avec celles qui s'en sortent plus ou moins dans tel domaine et moins dans d'autres. Et donc pouvoir partager comme ça, ça n'existait pas, il y avait un besoin.
Et pourtant, ça n'existait pas, pourtant ça fait partie d'un plan de développement au niveau national, hein, de créer ces groupes d'entraide mutuelle. Mais vous avez attendu jusqu'en 2024 pour que ça existe.
Je vais rectifier légèrement cette information.
Dites-moi.
En réalité, nous avons commencé à faire des demandes en novembre 2021.
D'accord.
Il y avait eu un appel à projet avant ça, personne n'avait répondu. J'ai débarqué en disant, tiens, pourquoi on ne le ferait pas? Et ça a mis juste du temps avant que ça soit validé.
Mais c'est né aujourd'hui. Vous allez d'ailleurs faire l'inauguration officielle demain.
Oui, pardon.
On a deux jours d'inauguration. Demain, pour les professionnels, les politiques, pour formaliser bien tout ça. Et samedi après-midi, de 14h à 17h, pour les personnes avec autisme, leurs familles, les personnes curieuses. C'est un moment où on ouvre les portes à tous pour présenter le projet, puisqu'ensuite, le but du groupe d'entraide mutuelle, ce sera plutôt réservé aux personnes concernées par l'autisme ou le TND, les troubles neurodéveloppementaux.
Et donc, à qui ça s'adresse? Vous parliez, c'était plutôt des personnes adultes qui sont concernées par ce groupe, hein?
Absolument. À partir de 18 ans, avec éventuellement une dérogation possible si la personne a 17 ans avec autorisation des parents, ça c'est du détail. Mais c'est un GEM pour des personnes adultes, donc autistes, sans déficience intellectuelle. Je le rappelle.
Ouais, c'est important de le préciser parce que l'autisme, on parle de spectre de l'autisme, c'est pour montrer vraiment une grande diversité. Hein, et donc là, on est sur une partie du spectre, vraiment la partie des personnes qui n'ont pas de déficience et qui sont des personnes qu'on a déjà tous rencontrées plein de fois sans le savoir. Ça peut être des étudiants, ça peut être des gens qui bossent, des parents, Voilà, il y a vraiment beaucoup de gens qui sont aussi diagnostiqués assez tardivement. Et donc, j'en profite pour dire que le GEM, il est aussi fait pour eux. On vient juste d'être diagnostiqué, finalement, on ne se connaît pas assez bien dans l'autisme. Ben, voilà, le GEM va servir à échanger avec d'autres personnes autistes qui ont déjà un petit parcours derrière eux.
Parce que c'est ça la difficulté peut-être de ce handicap, c'est que c'est invisible, quoi. Et donc,
c'est invisible si on ne sait pas où regarder, si on n'est pas très observateur. Disons qu'on peut facilement passer pour des personnes originales, alors qu'il y a un réel handicap et de grosses difficultés derrière.
Et qu'est-ce qui vous manquait le plus sans ce GEM ? C'est de trouver des gens pour parler, c'est de sortir, qu'est-ce qui manque
Un peu de tout ça, finalement. Il faut savoir qu'en parallèle, et maintenant on le fait avec le GEM, j'anime aussi et j'organise des cafés Asperger une fois par mois depuis, je ne sais plus, peut-être 2019, un truc comme ça. Et en fait, en ayant parlé de ce projet-là aux personnes qui venaient au café, on s'est rendu compte qu'on avait tous sensiblement des besoins, en tout cas dans des domaines assez similaires, qui n'étaient donc, je le répète, pas de l'ordre du médico-social. Donc se retrouver dans un endroit où on peut être soi-même sans jugement, où on peut se comprendre, on peut, si on a envie de quitter une conversation, sans rien dire, ben on peut le faire sans avoir à s'adapter. Et puis pouvoir sortir d'un isolement social qui est très présent, parce que c'est pas parce qu'on a l'air intégré, qu'on travaille, qu'on est dans un milieu associatif, que finalement, quand on rentre chez soi, on n'est pas extrêmement seul à se dire « la journée a été dure, j'ai compensé toute la journée, maintenant avec qui je peux parler de tout ça ?»
Ouais, donc c'est se retrouver, voilà, des gens qui nous comprennent, quoi, c'est
oui.
ça.
Ou en tout cas, avec qui on sait qu'on peut être pleinement soi, ça c'est important.
Et est-ce qu'il y a déjà des actions que vous avez en tête, des activités que vous voulez partager ?
Ben, y a tout un programme qui va être publié demain. Y a quatre grands domaines d'activité. Hein. Un premier, c'est pour comprendre l'autisme et mieux se comprendre soi-même. Donc, on va faire des sorties au centre de documentation du centre ressources autisme. Participer à une journée de formation la semaine prochaine sur être adulte et autiste. Voilà, un premier grand domaine. Le deuxième, ça va être toute la partie plutôt loisirs, culturels, donc faire des jeux de société, des jeux vidéo, des sorties, pour passer des bons moments. Un troisième axe d'activité qui va être pour se mobiliser au sein de l'association et en dehors. Voilà, la partie a vraiment action. Donc par exemple, on doit aller au mois d'avril participer à un programme de recherche sur l'autisme. Donc voilà, on va aller en Charente pour ça, on va participer à la fête de quartier, voilà. Et une dernière partie pour valoriser l'autisme, donc concevoir des expositions, participer à des sensibilisations, parler de l'autisme finalement pour permettre une meilleure compréhension, on va dire, du monde social au sens large, quoi.
Et alors, vous parliez donc de ces troubles autistiques qui sont vraiment le spectre est effectivement large. Là, on parle des personnes sans déficience intellectuelle. Est-ce que ce sont ces personnes qui sont peut-être le moins entourées ou diagnostiquées le plus tardivement ?
Elle est difficile, cette question.
je peux comprendre.
Disons que puisque c'est moins flagrant et moins visible, si je reprends des clichés qui vont faire marrer certaines personnes, on passe pas notre journée à se taper la tête contre un mur, forcément, ça se voit moins. Et les diagnostics sont effectivement souvent plus tardifs, surtout chez les femmes. C'est quand même assez important, et je ne dis pas ça que parce que je suis une femme, mais c'est le cas, ça a été mon cas.
Ça a été votre cas, oui.
Je vais avoir 41 ans cette année, mon diagnostic a été posé, j'avais 35 ans. Donc, je sais de quoi je parle. J'ai oublié la question de départ. Super.
Non, je disais, est-ce que justement, les personnes qui n'ont pas déficience intellectuelle, est-ce qu'elles sont diagnostiquées plus tard ? Apparemment, ça a été votre cas. Et peut-être moins accompagnées ou trouvent moins de solutions ou de lieux ?
Disons que les structures, en tout cas, qui accompagnent ces personnes-là ne sont pas les mêmes. Je n'ai pas le chiffre en tête si elles sont moins nombreuses que des IME, des MAS ou des choses comme ça. Je ne sais pas si Emmanuel a...
J'ai pas de chiffre exact. Maintenant, c'est vrai que déjà pour les personnes adultes, en comparaison de l'enfance, il y a déjà beaucoup moins d'accompagnement, quelle que soit la forme d'autisme. Et c'est vrai que pour les personnes autistes sans déficience intellectuelle, comme le besoin n'est pas visible dans le sens où il y a une autonomie plus importante, passe plus facilement entre les mailles du filet, Et finalement, ce qu'on peut retrouver en besoin chez ces personnes-là, c'est beaucoup plus le besoin de sortir de l'isolement social, d'où le j'aime. Donc finalement, c'est vrai qu'on espère pouvoir répondre à au moins une grande partie des besoins de ces personnes adultes autistes sans déficience.
Donc inauguration officielle demain, vous allez être installé à Beaulieu. Ouais. Ça va être là votre lieu. Est-ce que vous avez déjà eu des premiers retours, des premiers contacts, même si ce n'est pas encore officialisé, c'était une attente ?
Mais on a déjà des adhérents.
Vous avez déjà
c'est
des adhérents.
Déjà formidable. Et on en attend encore plein.
C'est assez rigolo parce que on a eu les locaux là en janvier. Ça fait 2 mois qu'on bricole, qu'on peint, qu'on monte des meubles. Et en fait, c'est bien la dizaine d'adhérents autistes qui se sont activés, plus quelques bénévoles qui ont été bienvenus aussi pour nous aider. Et donc, la préparation de l'inauguration des 2 prochains jours, elle a été faite par les adhérents. On a une exposition sur place, on a des discours écrits, on a fait du découpage, collage pour animer vraiment les choses et pour que ça ressemble aux adhérents qui sont déjà là et aux futurs adhérents qu'on va commencer à accueillir à partir de samedi.
Un grand merci à tous les deux. Donc Aurélie Gaillou, présidente, Emmanuel Voré, animateur de Nacre en ciel. Et donc pour l'inauguration de ce GEM, groupe d'entraide mutuelle lié aux troubles du spectre autistique. Donc le premier dans la Vienne. Et donc apparemment c'était attendu. Merci beaucoup à tous.
Merci beaucoup.
Demain dans le Café de la Presse, nous parlerons de la carte scolaire. Et tout de suite, c'est l'heure de vos idées sorties. À l'occasion de la Journée mondiale du Rhin, il y a une information et dépistage gratuit au CHU de Poitiers. Donc c'est toute la journée jusqu'à 17h dans le hall d'accueil Jean-Bernard sur le site de la Milletrie du CHU de Poitiers, un lieu d'échange avec des professionnels de santé qui sont impliqués dans la prise en charge des patients atteints de pathologies rénales. Ils seront là pour répondre à vos questions. Il y a une conférence à l'occasion des 80 ans du programme du CNR, donc le Conseil national de la résistance. C'est de 17h à 20h à l'amphithéâtre Pierre Bourdieu, hôtel Fumé, donc à Poitiers, avec énormément de participants qui viendront parler de ce Conseil national de la résistance, des programmes d'action qui ont été mis en place à l'époque. Aujourd'hui aussi, dans le cadre du Festival du film environnemental, il y a un ramassage des déchets sur le campus, combiné à un jeu de piste avec des lots à remporter. Et à 18h30, dans le cadre de la quinzaine de lutte contre le racisme et les discriminations, il y a un rendez-vous qui est proposé pour une séance de découverte et de discussion autour d'œuvres marquantes de l'histoire de l'art, délibérément engagées en faveur de la lutte contre le racisme, l'art comme arme pour témoigner, résister et promouvoir les valeurs de la tolérance et du respect des différences. C'est au miroir et c'est gratuit. Ça dure environ 1 heure. Sur Pulsar, à 17h, c'est le Zoom. À 19h, Change Doers. À 20h, Metal Fury. Et à 22h, on termine la journée au coin du feu. Merci Papa Cortex pour la réalisation technique. On se quitte avec Stomy Bugsy. Viens avec moi, ce titre en featuring avec Passy et Naufel, puisqu'ils seront ce soir au République Corner. Bon après-midi. À demain.
Le bien, le mal, comme Anakin, le shaitan me taquine, Timal. On vit dans un monde où le bien est condamné, et le mal applaudit. Ma religion songe combat tous les maudits. C'est comme se réveiller dans sa tombe enterrée. T'as beau hurler, pleurer, crier, sortir de l'ombre, les mers veulent briller, palper des billets, mais oublie de prier. Souvent la réalité te rattrape dans le ventre. Les portes des ténèbres s'ouvrent, regarde, tu y entres. Mais vent au black, tu fais pas le poids, parle pas, pas le choix, quotidien avec moi. Saigne, assigne et que mon stylo saigne. C'est que je perds le smile quand je me renseigne et je traîne mes semaines. Ainsi mes mots sont haine et sont gêne, je dégaine. Ma race déguste, ma rage dégage, donc les gens me craignent. Je suis un insoumis, un jeune qui gêne et qui tranche mes germes. C'est cette vision qui germe et tous mes gars qui gèrent. Trop soupir, on s'est trop soumis, je reste grand. Comme du boule à Oumi, mais oui, pourtant cette vie je l'aime. Les colons, leur chaîne me gêne, ma rime est vienne. Je crache à moulard amer, je veux être au top dans le chaîne gaine. Le plan B, c'est le buté, ça défonce comme un plan campbell. C'est des nègres butés, je suis les bonnes. Thank you.
Thank you.